L'hebdo politique.
Bonsoir, bienvenue. Vous êtes dans l'hebdo politique sur Radio Sensation Normandie. Ce soir, je reçois Thierry Plouvier. C'est le maire de Lyons-la-Forêt. Il est conseiller départemental de l'Eure. Il est également en charge de la commission des finances, des moyens généraux et du SDIS. Il est président du conseil de développement de la communauté de communes Lyons-Sandelle.
Chaque dimanche à 18h, c'est l'hebdo politique.
Thierry Plouvier, bonsoir. Vous avez 58 ans, marié, papa de trois garçons. Vous êtes clerc de notaire. Vous êtes entré au conseil municipal de votre commune en 2003, maire depuis 2008. Vous avez été président du syndicat mixte du Pays du Vexin normand. Et vous êtes président de l'agence de développement touristique Eure Tourisme. On dresse votre portrait dans quelques instants.
L'hebdo politique sur Sensation Normandie.
Bonsoir Thierry Plouvier, est-ce que j'ai oublié quelque chose sur la carte de visite ?
Sur la carte de visite, il y a simplement une toute petite erreur. Je suis élu depuis 1983.
1983, vous serez encore maire pour la prochaine élection ? Candidat ?
On va se représenter avec toute mon équipe municipale pour les prochaines élections municipales. Oui.
Lyons-la-Forêt, classé parmi les plus beaux villages de France, qui inspire... Je sais que ça en agace plus d'un, Madame Bovary de Flaubert, Maurice Ravel, Louis Aragon ou André Breton. Un patrimoine 17e, 18e siècle, une trace moyenâgeuse également qu'il ne faut pas oublier, et puis une douceur de vivre très normande. Il y a pire comme commune pour exercer la fonction de maire, dites-moi.
Oui, on a des conditions très difficiles, vous avez raison de le souligner. Lorsqu'on est élu depuis très longtemps, parce que je suis natif de Lyon, je suis né à Lyons-la-Forêt. Mes parents étaient boulangers à Lyons-la-Forêt, mes grands-parents étaient boulangers aussi à Lyons-la-Forêt. Malheureusement, moi, je ne suis pas tombé dans le pétrin. Et donc, c'est très agréable, forcément, d'être maire d'une commune comme Lyons-la-Forêt.
C'est une commune sans histoire ?
Oui, on peut dire sans histoire.
Ouais. Le département de l'Eure a accueilli pour la toute première fois à Vernon et Giverny les départements fleuris de France. Vous y étiez. Les participants sont réunis pour des temps de travail afin de faire évoluer notamment la réglementation nationale. Un souhait a notamment émergé que la labellisation soit accordée par le département et non plus par la région, au moins pour la première fleur. Alors c'était quoi le souci et qu'est-ce que ça va changer ?
Alors ce que ça va changer, c'est que jusqu'à maintenant, c'était les départements qui proposaient à la région l'attribution de fleurs supplémentaires, donc la première, la deuxième, etc. On a trouvé pertinent, en tout cas, les départements fleuris de France, de dire les départements font vraiment le travail sur le terrain, connaissent les communes, rencontrent les élus, rencontrent les équipes techniques de ces communes-là. Et c'était vraiment... c'est donner honneur en tout cas au travail qui était fait par les équipes départementales, l'attribution de la première fleur. Mais on peut travailler de manière conjointe avec la région. Je pense qu'il ne faut pas que ce soit le département qui attribue que la première fleur et puis plus rien après. Il faut que ce soit un travail qui soit fait avec la région. Et on va dire ce sont les deux qui attribuent la première et les fleurs supplémentaires.
On reste dans le bucolique là pour notre première partie d'entretien. Ville fleurie, ce n'est pas que du fleurissement. On va essayer d'y voir un peu plus clair, car désormais, la démarche est plutôt éco-citoyenne, avec l'amélioration du cadre de vie, le patrimoine et l'environnement.
C'est
assez important. Quand une commune s'engage au fleurissement, elle s'engage aussi à d'autres tâches.
Oui. C'est-à-dire qu'il faut bien sûr...
Est-ce que le cahier des charges est maintenant plus important, plus drastique ?
Beaucoup plus important parce que le label des villes et villages fleuris, c'est un label avant tout de qualité de vie. Et lorsqu'on on rentre dans une commune qui est labellisée, automatiquement, vous devez avoir tous ces critères-là.
C'est-à-dire, donc on ne met plus 3-4 fleurs, des jardinières au rond-point.
C'est plus la fleur au kilo, on est d'accord.
D'accord.
Et là, maintenant, c'est vraiment la préservation de l'eau, de l'éclairage public, la qualité environnementale et paysagère aussi. Hein, les arbres ont une importance, on l'a vu encore cet été avec un été... très chaud. Lorsque l'on était dans des communes où il y a beaucoup de végétation, c'était moins pénible en tout cas.
Et l'entretien du petit patrimoine aussi ?
Et l'entretien du patrimoine, bien évidemment. C'est vraiment tout un ensemble. C'est vraiment transversal aujourd'hui.
Le département de l'Eure avait été labellisé premier département fleuri de Normandie. On remet son titre en jeu, je crois qu'on peut dire ça, en 2021, avec confiance ou angoisse, car pour tous ces villages, c'est une vraie reconnaissance. C'est vrai que maintenant, les villages existent aussi grâce à ce label.
Oui, ça a été une volonté départementale de pouvoir s'inscrire dans cette démarche-là. Parce que on a mis ça a été un axe important et fort de la campagne départementale. Le tourisme a été un axe fort et le fleurissement, en tout cas la labellisation des villes et villages fleuris à une reconnaissance nationale était une obligation pratiquement, je dirais, facile pour pouvoir... pour pouvoir rentrer dans toute notre démarche de développement touristique.
Ça implique qui, en fait, lorsqu'on s'ouvre pour la toute première fois à ce concours, parce que c'est un concours, une commune qui n'a pas de fleurs, c'est les élus qui prennent part, ou les citoyens également ?
C'est les deux. C'est d'abord une volonté municipale, pour qu'il y ait vraiment une volonté municipale, avec une délibération du conseil municipal, et qui emmène aussi, alors ça dépend si c'est une grande ville ou si c'est un petit village, mais qui emmène toute la population derrière. Et derrière, il y a aussi, comme je vous le disais tout à l'heure, l'obtention du label, alors que ce soit une fleur, deux fleurs, trois fleurs ou quatre fleurs. Mais l'obtention d'un label, ça veut dire que vous faites des efforts dans tous les domaines pour la qualité de vie de vos administrés.
On l'entend bien que ça pèse plus au niveau touristique d'avoir une fleur de plus qu'un arrobase de plus, par exemple.
Tout à fait. Vous avez tout à fait raison. Ouais. Parce que le label va avoir 60 ans l'année prochaine. 60 ans, c'est plusieurs générations. Mm-hmm. Et quand on fait un sondage sur les labels en France, le label Ville et Village Fleuris est reconnu de tout le monde. Il y a certains labels, vous savez, vous pouvez avoir, je ne vais pas les citer, mais vous pouvez avoir des libellules dessus ou des coccinelles, etc. Ouais. Ou des étoiles, ouais. Éventuellement. Les gens ne vont pas forcément reconnaître et à quoi ça correspond. Est-ce que le label des villes et villages fleuris, ouais. La couleur, c'est facilement reconnaissable.
À ce jour, il y a 92 communes du département qui sont labellisées.
Ouais.
35 000 euros sont destinés au prix remis chaque année aux communes. C'est beaucoup ou c'est pas assez? 35 000 euros.
Je dirais que c'est bien. J'ai déjà, depuis qu'on est arrivé au département, repris un petit peu le règlement parce que c'était pas utile d'attribuer des sommes d'argent à des communes de 20-30 000 habitants. Ça n'a aucun sens. En revanche, ça a un vrai sens pour les toutes petites communes rurales qui sont de 200-300 habitants. Mmh. Lorsque vous leur apportez même 200-300 euros ou 500 euros pour fleurir leur commune, c'est toujours ça de plus pour eux.
Il y a peu de communes dans le département qui ont 4 fleurs, je crois qu'il y a vous,
Lyon-Saint-Forêt. Il y a la commune de Lyon-Saint-Forêt et Pont-Audemer.
Il y a Pont-Audemer. Toutes les petites communes jouent également le jeu, mais on a l'impression que les communes un peu plus grandes, comme les sous-préfectures, à l'instar de Bernay, jouent moins le jeu en se cachant derrière un défaut de budget conséquent.
Non, je pense
pas. Est-ce que
ce n'est
pas intéressant pour eux ?
Je ne pense pas. Je pense que c'est, je vous disais tout à l'heure, c'est une vraie volonté politique et municipale de pouvoir s'engager dans cette démarche-là. Et je peux vous assurer qu'au niveau du budget communal à Lyon-Saint-Forêt, je suis bien placé pour le savoir, on n'a pas augmenté notre budget au niveau du fleurissement. Lorsque nous étions labellisés trois fleurs, en passant à la quatrième. Ce n'est pas la labellisation qui a fait exploser le budget par deux. Je pense que c'est plus une peur ou une crainte de la part des municipalités et surtout des services techniques de dire on va être quatre fleurs, on va nous imposer des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire, etc., alors qu'ils le font inconsciemment déjà.
Est-ce que vous comprenez, par contre, pour revenir sur Bernay, on a un panneau Ville Fleurie à l'entrée de Bernay Ouest qui est complètement délavé,
oui,
avec deux fleurs. Vous l'avez vu. Et en fait, on s'en contente.
C'est un petit peu dommage qu'on ne prenne pas ça en compte et qu'on ne fasse pas attention à tous ces petits détails-là. Justement, ce sont la multiplication de tous les petits détails qui font que vous avez une belle image tout à fait de votre ville ou de votre village.
Lyon-Saint-Forêt avait reçu en 2015 l'association Les plus beaux villages de France.
Oui.
Est-ce que c'est un combat de tous les jours pour garder ce label prestigieux ou est-ce qu'on peut le perdre ? Est-ce que vous n'allez pas devenir le village le plus moche de France, mais est-ce qu'on peut être rétrogradé ?
On peut très bien être déclassé, même pas rétrogradé.
Dans l'heure, il y a le bec et loin, vous êtes deux, ça.
Oui, on peut être déclassé complètement, quoi, si vous voulez.
Pour quelle raison ?
Parce que vous n'avez pas pris attention à la préservation des aménagements. Lorsqu'il y a des travaux qui sont faits, des améliorations de façade, etc., de couleur, vous avez laissé à volo l'urbanisation de votre village avec des zones artisanales, des zones industrielles, etc. Donc derrière, il y a une vraie volonté aussi politique et municipale de dire on préserve le village tel qu'il est. Pour pouvoir se démarquer par rapport à d'autres villages.
Comment ça se passe ? Il y a un jugement chaque année ? Il y a des inspecteurs discrets qui viennent ?
Ils viennent tous les 3 ans.
Ah, vous savez qui passe ?
Ils viennent tous les 3 ans.
C'est pas comme Hugo et Mio, ils sont pas...
Non, ils sont pas avec le chapeau et les lunettes de soleil. Ils viennent à visage découvert. Et il y a un vrai audit qui est fait à chaque fois pour savoir ce que l'on a amélioré et ce que l'on fait. Ils regardent bien sûr le plan local d'urbanisme, le PLU, de la commune pour déterminer de quelle manière on appréhende les demandes de permis de construire, les déclarations de travaux, etc.
Donc là, en fait, le prochain audit, ça sera quand ?
Le prochain audit, c'est en 2021.
2021.
Oui.
D'accord. Vous avez, à l'époque, lorsque vous étiez à la tête du comité départemental du tourisme, réorienté les professionnels dans une démarche de développement touristique et économique. Depuis 2016, est-ce que le chemin a été prolifique et bénéfique ? Est-ce que ça a progressé ?
Oui, ça a progressé et on a aujourd'hui, en tout cas, on commence à récolter les fruits de notre travail. C'est-à-dire que quand on est arrivé au département, donc en 2015, il a fallu tout remettre à plat parce que au niveau du CDT, il n'y avait pas de structure.
D'accord.
Avec une feuille de route ni avec des fiches actions, etc. Donc il a fallu tout remettre à plat. Ça a été un vrai travail que j'adore encore faire aujourd'hui. Et aujourd'hui, on commence à récolter en tout cas les fruits donc, de notre travail avec des filières bien définies. Les filières donc, de l'impressionnisme, du médiéval, du vélo route, etc. Et toutes ces filières-là sont bien calibrés, définis,
d'accord,
etc.
Okay.
Donc là, pour le coup, on a eu un vrai travail, ça a duré pendant un an quand même, de faire un vrai schéma de développement touristique qui a été approuvé en session plénière au département avec des fiches actions qui déclinent toutes les actions que l'on doit faire.
D'accord.
Alors ça, c'est quelque chose qui est bien calé, okay, bien en route.
Thierry Pouvier, vous ne bougez pas, on passe à la deuxième partie de cette émission.
L'hebdo politique.
Retour sur l'hebdo politique où je reçois Thierry Plouvier, maire de Lyons-la-Forêt. Vous avez employer le mot exporté, c'est presque le cas, votre commune au Japon il y a quelques années. C'était quoi la démarche ? Qu'est-ce que vous avez été faire au pays du soleil levant ?
Alors ça peut paraître bizarre d'aller présenter Lyons-la-Forêt au Japon, mais c'était à l'université de Tokyo,
ouais,
où des chercheurs sont venus travailler pendant 4 ans. À Lyons, à raison d'un mois par an.
D'accord.
Et donc la première année, ils ne m'ont pas dévoilé ce qu'ils venaient faire, mais ils venaient prendre des renseignements sur l'urbanisation, sur les paysages, sur le patrimoine, etc. Et tous les ans, donc, on travaillait pendant un mois ensemble. Et au bout de 3 ans, je me suis posé quand même un peu la question en disant, mais pourquoi vous faites tous ces travaux-là ? Alors, je savais qu'ils étaient de l'université de Tokyo, qu'ils travaillaient sur l'urbanisme, sur le patrimoine, etc. Et donc, et je leur ai posé la question, mais pourquoi Lyons-la-Forêt ? Parce que vous avez 36 000 communes en France, pourquoi Lyons-la-Forêt ? Donc, ils m'ont dit qu'ils cherchaient d'abord une commune à l'ouest de Roissy, à 1 heure de Paris. Donc c'est notre avantage aussi. Classé plus beau village de France, donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ça a quand même une certaine importance, une véritable
importance.
Une portée
internationale, quoi.
Voilà.
Ouais.
Et avec un patrimoine bâti et un patrimoine végétal complètement préservé.
D'accord.
Et la cinquième chose, c'était aussi que quelqu'un puisse les recevoir et travailler avec eux sur le... sur ce qu'il faisait comme travaux sur l'environnement, etc.
Ça a été quoi, en fait, la synthèse de ces travaux-là ?
La synthèse, en fin de compte, c'était de dire de quelle manière vous allez appréhender les premières années du 21e siècle, alors que vous avez un patrimoine avec 20 siècles plus tôt, même voire davantage, parce qu'on a un secteur dans Lyons-la-Forêt qui date de l'époque gallo-romaine, voyez-vous. Donc c'est quelque chose d'assez prégnant à Lyons. Il y a vraiment une vie à Lyons qui remonte bien avant le Moyen-Âge. Et de dire comment vous appréhendez donc le 21e siècle. Et c'est ce que je vous disais un tout petit peu tout à l'heure, c'était de dire on veut se démarquer en préservant au maximum le paysage, le patrimoine, etc. Parce qu'on a un patrimoine de toute beauté. Hein. Ah ouais. Et donc, pour pouvoir justement se démarquer, pourquoi un visiteur irait voir un autre village alors que... Ou pourquoi il ne viendrait pas à Lyons-la-Forêt si Lyons-la-Forêt, je veux dire par là, si Lyons-la-Forêt ressemble au village qui est à côté, pourquoi venir à Lyons-la-Forêt ?
Est-ce qu'ils ont l'équivalent au Japon ?
Alors, ils ont l'équivalent. Des vieux villages. Alors, ce qui les intéressait aussi, c'était les traditions que l'on a pu garder, nous, en France, et on avait la comparaison avec deux villages japonais, donc qui sont un peu des fois à la montagne.
D'accord, ouais.
Un village allemand et un village français. Et donc, j'ai eu le plaisir d'aller pendant 3 jours au Japon, 2 jours à travailler, parce que les Japonais sont des bosseurs, c'est férus de boulot, quoi. Hein. Donc, commencer à 8h le matin, la conférence, on terminait à 20h le soir, et
d'accord.
Avec très peu de pauses, quoi. Hein.
Lyons-la-Forêt, c'est un village de 800 habitants.
C'est ça.
Ça n'a pas grossi.
Non.
Avec son originalité, sa notoriété touristique, classement des communes touristiques depuis 1929.
C'est ça.
4 fleurs d'or, oui. Aussi. Étoile au guide vert Michelin. Un festival de peinture, de cinéma. Est-ce que votre commune arrive à tirer son épingle du jeu parmi les gros monstres touristiques de la région Normandie, que ce soit les plages du débarquement, le Mont-Saint-Michel, Giverny, etc., ou Étretat ? Est-ce qu'on est dans la cour des grands, là, dans la région ?
Oui, parce que je peux vous dire que j'ai même été étonné. Alors, c'est le fruit d'un travail qui remonte à plus de 50 ans. Comme vous l'avez dit, Lyons-la-Forêt a été classée commune, à l'époque, on disait, de villégiature. En 1929, bon. Et depuis, Lyons n'a cessé de progresser, certainement à une époque sans faire exprès, parce que on a échappé, si vous voulez, aussi à deux éléments très importants. Le premier élément, c'est on n'a pas subi, si vous voulez, la révolution industrielle qui a pu y avoir au XXIe siècle.
Il n'y a pas trop de béton à Lyons-la-Forêt.
Il n'y a pas d'industrie à Lyons-la-Forêt. Il n'y avait que la forêt. Bon. Et le deuxième élément, c'est que on n'a pas du tout été bombardé pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc le village est resté comme au XVIIe siècle. Identique.
D'accord.
Donc tout ça, ça a été forcément restauré avec des matériaux, des vrais matériaux, si vous voulez. Hein. Ça n'a pas été bétonné ni rien du tout. Et aujourd'hui, j'étais très étonné lorsque l'autre jour, il parlait à la télévision sur un journal de 20 heures du patois normand, en faisant voir justement Étretat, les falaises bien évidemment, ouais. Les parasols de Deauville, Honfleur avec son bassin. Vous reconnaissez forcément,
ouais.
Parce que je suis dans le tourisme, donc je connais bien ça. Et à un moment donné, vous voyez le bout de la halle et l'hôtel du Grand Cerf, vous voyez. Donc vous vous dites, tiens, quelque part, il y a une reconnaissance même à l'échelle nationale.
C'est la carte postale identitaire, ça, la halle de Lyons-la-Forêt.
La halle, la place de la halle, oui.
Ouais.
La place de la halle, avec ses maisons à colombages tout autour, c'est ce qui a servi de décor, d'ailleurs, parce qu'on en parlait tout à l'heure,
du film de
Madame Bovary avec Claude Chabrol. Moi. Mais au-delà de ça, on fait partie aussi, sur le département de l'Eure, des 15 spots touristiques qui sont reconnus et pour lesquels on peut le proposer à l'international.
D'accord. Pour 2018, vous aviez proposé ou poussé le projet avec la signature de contrat de territoire. Il y avait également dans un packaging lors de vos voeux le véloroute entre Lyon et les écluses de Pause, la voie verte Paris-Londres reliée à la Seine par Gisors et tout ça. Est-ce que tout ça s'est bien mis en place ou est-ce qu'il reste encore des projets à finaliser ?
Alors tout ça s'est mis en place, c'est comme on dit dans notre jargon, c'est dans les tuyaux.
C'est dans les tuyaux.
Bon, c'est dans les tuyaux.
Contrat de territoire.
C'est dans la contractualisation, absolument. Et ce que l'on va faire en premier, c'est d'abord d'aller de Lyons-la-Forêt jusqu'aux écluses de Pose, et de l'autre côté de la passerelle passe la Seine à vélo.
D'accord.
Puisqu'on se retrouve dans le territoire de l'agglomération de Louviers. Donc passe la Seine à vélo. Et mon idée, si vous voulez, c'était de dire essayons de fédérer beaucoup plus de monde et de relier la Paris-Londres, qui passe à Gisors, et donc le territoire de Trépanny, c'est beaucoup ouais. de plaines, c'est ouais. le Vexin, hein, c'est mmh. le Vexin dur, c'est de relier Gisors et Trépanny-Lyons, donc de rejoindre la Seine à vélo, enfin la Paris-Londres avec la Seine à vélo, en passant par Trépanny, Lyons-la-Forêt, et reprendre notre véloroute que l'on va faire. On va débuter l'année prochaine, puisqu'il fallait d'abord qu'il y ait la contractualisation, mmh. et après ça va se faire facilement.
Un projet qui sera inauguré quand ?
On peut dire en 2020, je n'ai pas d'échéance précise,
ouais.
parce que quand on est un vieil élu, on évite de donner un calendrier des fois trop précis. Parce que
pour la fin du mandat, quoi.
Pour la fin du mandat, oui, certainement.
Ouais.
Certainement, parce que derrière, il y a aussi, si vous voulez, une mise en valeur du parcours.
Mm-hmm.
Et si vous avez juste un parcours et vous n'avez rien à voir, vous faites 20 km et vous ne découvrez rien,
ouais.
ça ne porte pas grand-chose. Je pense qu'il y a aussi à valoriser aussi le parcours. Et dans le parcours, il existe, juste avant Pont-Saint-Pierre, entre Ratepont et Pont-Saint-Pierre, ça ne vous a pas échappé, l'abbaye de Fontaine-Guérard et surtout la filature Le Vavasseur,
ouais.
qui est une cathédrale extraordinaire en France, une des rares cathédrales industrielles qui existe là dans la vallée de l'Andelle. C'est un bien qui appartient au département et tout ça, il faut le mettre un petit peu aussi en musique. Donc je voudrais que tout ça puisse se mettre en place pour 2021, si on veut, oui, pourquoi pas.
Sébastien Lecornu, à ce sujet, vous avez promis un soutien général et gouvernemental à la ruralité, au centre-bourg pilote, etc., qui pourrait mieux structurer la vie rurale. C'est des paroles qui ont été entendues, suivies d'actes.
Oui.
Oui.
C'est pareil. Alors ça se monte pas en 5 minutes.
Ouais.
On en a parlé ensemble. Et faut être candidat à l'amélioration, en tout cas, de son cadre de vie et de son cadre patrimonial qui se trouve autour de la halle. Aujourd'hui, ce que j'aurais voulu que l'on puisse arriver à faire, c'était de requalifier l'espace public autour de la halle, parce que la halle, si vous regardez des cartes postales anciennes dans les années 70, il n'y avait que des voitures de stationner tout autour de la halle. Ouais. Et on a pris la décision en 1985-86, avec le conseil municipal de l'époque, de rendre cet espace public aux piétons, de le redonner aux piétons,
d'accord.
comme il était au début du XXe siècle. Et aujourd'hui, donc, tout cet espace public a 30 ans, 35 ans.
Mm-hmm.
Et on voudrait pour justement aller entrer dans le 21e siècle avec quelque chose de très qualitatif, de pouvoir refaire un petit peu cet espace public. Et ça rentre dans le cadre de l'attractivité des centres-bourgs.
Vous qui êtes un peu sur les deux compétences, entre le tourisme et le patrimoine, qu'est-ce que vous pensez de ce fameux loto du patrimoine lancé par Stéphane Bern ? Est-ce que c'est un gadget ?
J'attends de voir.
D'accord.
J'attends de voir. Parce que je pense que ça aurait pu être fait autrement. Je vous donne mon sentiment. Je ne devrais peut-être pas vous le donner, mais je vous donne mon sentiment. Parce que le ticket de loto... Alors moi, je ne joue pas au loto, mais je vais essayer d'être assez concis là-dessus. Le ticket du loto pour le patrimoine avait l'air d'être relativement cher par rapport à un ticket de loto ordinaire. Je pense que pour sauver le patrimoine en France, les gens sont très attachés au patrimoine. On le voit à chaque fois dans les collectivités. Lorsqu'on veut restaurer un patrimoine, ça m'est arrivé au début, lorsque j'étais maire en 2009, de restaurer une chapelle. Ça a dépassé même les espérances de ce que l'on pouvait avoir en souscription.
Mais si le département, il n'y a que 3 monuments qui sont concernés.
Ouais.
Ça, ouais.
Et s'ils avaient fait un ticket de loto accessible à tout le monde et qui était vraiment destiné pour la restauration du patrimoine, peut-être que ça aurait été, il y aurait eu plus de personnes qui auraient joué et entré dans la démarche en tout cas. Bon, moi, je le vois comme ça.
On arrive à la fin de notre entretien. Est-ce que vous avez des passions, des hobbies en dehors de votre vie politique ? Est-ce que vous trouvez du temps ?
Oui, je trouve toujours un tout petit peu de temps. Pas assez aux yeux de mon épouse.
Le fait d'être dans le tourisme, déjà, ça vous permet de voyager ?
Oui, quand même. Mais quand je ne suis plus au travail, je suis vraiment
Monsieur tout le monde.
Monsieur tout le monde, monsieur lambda. Des passions, oui, j'ai passion pour le sport. C'est ce que j'aurais voulu faire si je n'avais pas fait ma carrière dans le notariat. J'aurais voulu être prof de sport. Donc, Donc, je suis vraiment un passionné de sport. Et maintenant, je le consacre à mon petit-fils. Pour l'instant, j'en ai qu'un seul. Donc, je consacre mon temps, mon peu de temps de libre à mon petit-fils.
Voilà. Est-ce que M. Lambda sera candidat à la mairie ?
Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, on va repartir. On a encore de belles choses à réaliser sur Lyon, parce que Lyon, c'est quand même un pôle d'attractivité par rapport à toutes les communes qui se trouvent autour. Parce qu'on parle d'attractivité, mais il faut encore proposer quelque chose. Et on est un vrai pôle d'attractivité avec, par exemple, un cabinet médical avec 5 médecins généralistes pour une commune de 800 habitants, une pharmacie, 2 épiceries, une boulangerie, etc. Donc, on a vraiment un pôle à Lyon, pas simplement que touristique, mais vraiment un pôle d'attractivité pour toutes les communes qui sont autour. Et il y a encore de belles choses, en tout cas, à faire.
Merci, en tout cas, d'avoir accepté notre invitation.
Merci beaucoup, Dominique.
Vous pouvez retrouver ce magazine et cet hebdo politique, vous le savez, sur notre site internet www.radiosensation.fr. Bonsoir.
Bonsoir, Dominique.
Chaque dimanche à 18h, c'est l'hebdo politique.